salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. L'émission tout spéciale aujourd'hui puisqu'on enregistre en direct des championnats Banque Nationale de Granby. Lourd menu aujourd'hui puisque on va recevoir un peu plus tard Richard Quirillon et Patricia Simard qui sont les colonnes vertébrales de l'organisation de ce tournoi-là. Et notre favori Alexis Galarneau va venir nous jaser un peu plus tard. Mais avant de passer aux choses sérieuses, Hugues Léger, comment te portes-tu? Comment a été ton week-end? Est-ce que ça a été mimosa et tennis comme c'est ton habitude?
Ben, j'étais sur le PIMS. Le PIMS étant le cocktail favori des gens à Wimbledon. Donc, avec mon épouse, on s'est fait un week-end PIMS et fraises. Mais quel week-end de tennis on vient de vivre. J'ai rarement été debout devant ma télé comme ça pendant des jeux de tennis. Et hier, durant le dernier jeu qui a couronné Alcaraz comme champion de Wimbledon, j'étais debout et j'étais impressionné du niveau de tennis que j'ai vu. Donc, ça va très bien en ce moment.
Est-ce que tes jambes ont tenu le coup? Parce que si t'as été debout pendant 5 heures, honnêtement, c'est une pop et run.
Dernier jeu seulement.
OK, dernier jeu. Alors, c'est pas vrai. Nicolas Richard, toi, est-ce que ça a été un week-end rempli de sport, toi qui es l'homme à tout faire de la presse?
C'est un week-end plus Nutella et verre de lait. Je sais pas si ça compte, là. C'est plus ça, ma tasse de thé. Non, week-end, j'ai envie de dire, exceptionnel et dont on se souviendra longtemps, je pense.
Et là, tu parles d'un point de vue tennis, évidemment.
Complètement. Je ne parle toujours que de tennis, Alex.
Non, je sais que tu es certainement un des meilleurs généralistes dans la business et ça me fait plaisir de te le dire puisque tu es à côté de moi. D'ailleurs, on ne fait pas trop souvent d'émissions, les trois ensemble. Ça arrive à quelques reprises. Je suis bien content de le faire avec vous et content de savoir que vous avez profité de votre week-end également. Maintenant, rentrons dans les choses sérieuses. Parlons de tennis puisque c'est notre mandat. Et je vous propose d'y aller en ordre décroissant parce que commençons avec ce qui s'est passé du côté des hommes, puisque c'est un peu plus frais. D'abord, un commentaire général, Hugues, sur cette victoire. Non, avant d'y aller du commentaire général, j'aimerais juste que vous me rappeliez vos prédictions, puis après ça, je vais vous rappeler ma prédiction. Alors, tu avais prédit qui, toi, Hugues?
J'avais prédit Novak Djokovic, et même jusqu'au début du cinquième set, j'étais encore sur Djokovic, donc ça a été une surprise pour moi qu'Alcaraz remporte ce tournoi-là.
Nicolas Richard, tu avais prédit qui?
J'avais Alcaraz en 5-7 de plus de 4h40.
C'est complètement faux. J'étais le seul à avoir prédit Carlos Alcaraz.
Bravo, Alex.
Alors, voilà.
C'était audacieux, bravo.
Ben, c'est pas si audacieux que ça quand tu mises sur le numéro 1 mondial. C'est juste que dans le contexte, c'est quand même Novak Djokovic qui avait une espèce d'aura d'invincibilité. Ben oui. Mais sans me lancer des tapes dans le dos gratuitement, comme je viens de le faire. Commentaire général sur cette magnifique victoire de Carlos Alcaraz.
C'est ça, ça amène bien le sujet. Et pourquoi on avait pris la plupart d'entre nous, Djokovic. Écoute, c'est la première fois en 20 ans, depuis 2003, que ce n'était pas un membre du Big Three ou Andy Murray, qui a gagné deux fois durant cette période, qui remportait Wimbledon. Donc, Alcaraz a brisé une lancée qu'on ne reverra peut-être plus jamais dans l'histoire du sport en général et du tennis en particulier. Victoire grandiose. John McEnroe, un des grands du tennis, a dit après le match, c'est le plus beau match que j'ai eu l'occasion de commenter et de présenter. C'est une victoire pour l'histoire qu'on a vue hier. On l'a au même niveau que des grands matchs, comme la fameuse finale McEnroe-Borg de 80, le Nadal Federer de 2008 ou le Djoko Federer de 2019. On est à ce niveau-là. Alcaraz devient le deuxième plus jeune champion de Wimbledon à 20 ans, le premier étant Boris Becker, qui avait gagné en 85 à 17 ans.
Oui, c'est phénoménal et on reviendra un peu sur la signification de ça parce que c'est quand même lourd de sens que ce qui s'est passé hier. Nico, commentaire général sur cette victoire de Carlos Alcaraz.
Oui, comme le disait, je classe ce match-là parmi les plus grands à Wimbledon, très certainement. Puis pour ajouter aux statistiques que Hugues avançait, une autre, moi, qui me fascine, c'est que c'est la première fois que Djoko perd sur le central en finale de Wimbledon depuis 2013, depuis un certain Andy Murray. 34 matchs consécutifs avec la victoire, c'est tout à fait exceptionnel. Et il y a eu de tout dans ce match-là, on y reviendra en détail, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à mon avis, le meilleur a battu le plus grand. C'est-à-dire que Alcaraz, numéro un légitime, ça je pense qu'il n'y a pas de doute après cette victoire-là, a battu l'homme à battre, le meilleur joueur de l'histoire, Novak Djokovic.
Bien, la légitimité que tu apportes, elle est intéressante parce que, l'année passée, Wimbledon avait une espèce de déficit de légitimité parce que, tous les meilleurs joueurs n'y étaient pas. Djokovic était champion. Je pense pas que personne doutait de la légitimité de Djokovic, mais on l'a fait un peu dans le cas de Rybakina, notamment. Oui. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que là, on avait Carlos Alcaraz, la finale rêvée contre Novak Djokovic, et tu ne peux pas avoir plus légitime que ça comme victoire en situation de Grand Chelem contre un des meilleurs joueurs au monde.
Oui, et on le sait, Djokovic joue en ce moment pour réécrire le livre d'histoire. J'en parlais avec nos collègues à BPM ce matin, Eric Auziel. Je dis, Djokovic ne joue pas pour être aimé en ce moment. Cette carte-là, elle est mise de côté. Par contre,
il l'a mise de côté pendant la COVID.
Exact, oui, ça a commencé là. Et là, il veut vraiment réécrire les livres d'histoire. Et hier, il avait à sa portée plusieurs records importants, dont le fameux numéro 24 que Margaret Court possède toujours aujourd'hui. Donc, le plus de victoires en Grand Chelem, hommes et femmes. C'est un premier objectif pour lui. Le deuxième, un huitième titre à Wimbledon où il aurait rattrapé Federer. Donc, Federer reste le joueur ayant le plus de titres à Wimbledon du côté masculin avec 8. Navratilova en a 9 du côté masculin. Et pour moi, peut-être le plus important cette année, c'était le Grand Chelem calendrier sur lequel il était très bien lancé avec des victoires en Australie et à Roland-Garros. Et là, c'est terminé pour le Grand Chelem calendrier. Rod Laver peut garder ses Grand Chelem calendriers. C'est pas prêt d'être égalé, selon moi, ce record-là de Grand Chelem calendrier. Et c'est terminé à cause de Carlos Alcaraz hier. Et je vais ajouter, c'est pour ça, selon moi, que quand il a réalisé tout ça au milieu du cinquième set, qu'il a explosé sa raquette sur un poteau, Djokovic, là, tout ça lui échappait hier en fin de cinquième set.
On va y revenir à cet événement-là. Nico, qu'est-ce qui a été le point tournant pour toi dans ce match-là? Est-ce que ça s'est passé au deuxième set, le bris d'égalité? Est-ce que ça s'est passé plus tard dans le match?
Je pense que c'est au troisième set, ce fameux point de 27 minutes pendant lequel Djoko a servi 13 égalités, les gars, 7 balles de bris. Et comme je disais à Hugues tantôt en mangeant un copieux repas, pour moi, ce 27 minutes-là illustre toute la carrière de Novak Djokovic. Parce qu'il a été parfois sensationnel, parfois décevant, parfois incompris. Il a été frustré, il a brisé sa raquette, il a une pénalité pour avoir pris trop de temps. Ça l'a déconcentré. Les gens l'ont hué, mais parfois ils l'ont acclamé. Fait que ce 27 minutes-là, si dans 10, 15 ans, on se demande, c'était quoi Novak Djokovic? Ouais. C'était qui? On pourrait isoler ce 27 minutes-là. Et pour moi, ça représente tout ce qui est de Novak Djokovic.
Ouais, c'est intéressant. Pour toi, quel a été le point tournant? Est-ce que ça s'est passé en fin de match ou peut-être plus en début de match? Parce que, écoute, s'il gagne le bris d'égalité, s'il s'en sort là, on parle même pas d'un cinquième set.
Écoutez, les gars, je vous l'ai écrit, ça a été une montagne russe. À un moment donné, je dis, bon, ça va être plié. Si le deuxième set était gagné, qui s'est terminé en tie-break par Djokovic, je pense pas qu'Alcaraz aurait pu revenir. Après, il gagne nettement le troisième set. C'est ça, Djokovic est comme décroché. La fameuse pause toilette à la fin du troisième set, je me dis, oh, attention, comment il va revenir. Effectivement, il revient frais comme une rose au début du quatrième set, qui remporte pour aller en cinquième set. Mais même au début du cinquième, les gars, je vous disais, Djokovic, là, on va passer en mode physique et mental. Il devrait avoir un petit edge. Et c'est là qu'on a vu tout le potentiel de Carlos Alcaraz pour devenir un des plus grands de l'histoire. Et je peux déjà le dire, même s'il n'a que 20 ans, on verra dans la durée, mais ce qu'il a livré comme performance hier, tant au niveau de des coups qu'il peut produire qu'au niveau mental, comment il s'est accroché au bon moment, c'est tout simplement exceptionnel. Donc, je ne peux pas vraiment dire un point tournant. Oui, je pense que le jeu du troisième set dont Nicolas a parlé, il est important. Écoutez, c'est un jeu qui a duré aussi longtemps qu'un set. C'est quand même, il faut le faire, là. Donc, je pense que Djokovic a dû l'avaler de travail un peu ce jeu perdu-là. Et aussi, c'est à ce moment-là que la foule est rentrée dans sa tête un petit peu plus. On sait qu'il se nourrit vraiment de cet antagonisme-là avec la foule. Mais quand on se fait applaudir, huer sur une faute où il prend trop de temps pour servir, et on a vu que les gens étaient vraiment contre lui encore. On parle souvent du GOAT, mais il ne sera jamais le GOAT dans le cœur des gens. C'était plus évident que jamais hier.
Ouais, je pense que c'est le jeu le plus long de l'histoire, si je ne me trompe pas. Ça a été assez spectaculaire. Et j'aime ce que tu apportes, l'idée du caractère de Carlos Alcaraz. Parce que quand tu perds le quatrième set, tu te retrouves contre, bon, possiblement le meilleur joueur de tous les temps, un gars qui ne fait que ça, gagner en Grand Chelem, et que tu réussis à briser et que les nerfs tiennent jusqu'à la fin du match. Honnêtement, ça en dit long sur ce qu'on peut s'attendre de lui dans les prochaines années, Nico.
Il faut le dire, je pense qu'au premier set, il était gêné. Oui. Il était un peu intimidé, il se cherchait, tu l'as dit, il est arrivé à plat, son coup droit ne fonctionnait pas. C'était extrêmement difficile. Mais oui, on parle de sa tenue pendant les sets 3, 4, 5, mais Alex t'en a fait mention dans le bris d'égalité de la deuxième manche. Alcaraz le sait mieux que personne que s'il perd cette manche-là, il perd le match parce que c'est, j'ai envie de dire, statistiquement impossible de gagner 3 sets de suite contre Novak Djokovic. Donc, il le sait à ce moment-là que ça passe ou ça casse. Il l'a livré, il a été fabuleux, mais surtout, il est resté extrêmement calme. Puis, je fais allusion à son entraîneur, Juan Carlos Ferrero. Rappelez-vous, lors de ses plus grands matchs, on le voit brandir le point, être sur le bout de son siège, parler à Carlos, vamos, vamos. Et là, on ne l'a pas entendu de la partie. On ne l'a pas entendu du tout. Donc, est-ce que c'est le plan de match de rester calme, de rester le plus zen possible? Possiblement. Et j'ai envie de dire que ça a sauvé le match pour Carlos Alcaraz.
Ça fait 10 ans qu'on parle de changement de garde. Est-ce qu'on y est?
Oui. C'est drôle, hein, parce qu'on en a beaucoup parlé depuis 2 ans. Puis j'ai été un des premiers à dire le Big Three, c'est fini. Mais quand même, forcé d'admettre que sur les sept derniers Grands Chelems, 5 avaient été remportés par Nadal ou Djokovic. Il n'y a que Alcaraz qui a mis une brèche là-dedans avec le US Open de l'an passé et Wimbledon maintenant. Là, je pense qu'on vient d'avoir cette bascule-là. Mais c'est pas là où je le pensais. C'est pas Zverev, c'est Medvedev qui a eu un US Open, mais qui est quand même qui s'est fait sortir sèchement par Alcaraz en demi-finale 6-3, 6-3, 6-3. C'est Alcaraz qui marque ce changement de garde maintenant, et dans la tête des gens aussi, parce que le match d'hier a eu une grande notoriété. J'ai très hâte de voir les chiffres d'audience d'hier, mais les retombées médias de ce match-là, selon moi, sont énormes aujourd'hui, et je pense que c'est ça vraiment qui va marquer ce changement de garde du Big Three. Et je vais rajouter un point sur cet élément-là, Alex. Djokovic a rendu un bel hommage à Alcaraz après le match en disant « c'est lui le meilleur en ce moment », et il a dit « il a le meilleur de nous trois du Big Three ». Il a le côté athlétique, défensif, hargneux de Nadal, la variété de coups de Federer et mon côté mental. Donc ça, c'est le plus grand hommage qu'on pourrait faire. Et c'est ce mode-là, c'est ce moule-là qui a été utilisé pour former Alcaraz qui fait que c'est un joueur qui est hors norme en ce moment.
Nico, est-ce qu'on passe à une autre génération? Est-ce que le changement de garde, sans dire que Djokovic ne va pas en gagner d'autres, là, mais est-ce que le point tournant, il est ici, maintenant?
J'ai pas envie d'y aller avec une réponse officielle en disant que c'est fait. Je pense pas que lorsque la poignée de main au-dessus du filet, la passation et du pouvoir, c'est fait. Parce qu'ultimement, les gars, Djoko a gagné 2 des 3 grands chelems. Il est en finale de ce dernier. Si Djoko avait été éliminé en quart de finale à Roland-Garros et en demi-finale, par exemple, en 8e à Wimbledon, là, je pense qu'on aurait pu parler d'une passation des pouvoirs puis d'un changement de garde, d'une nouvelle ère. Mais je pense que ça va se jouer au US Open, les gars.
Ouais.
À New York, c'est là qu'on déterminera qui, à partir de 2024, sera et fera partie de la nouvelle garde, si Djoko demeure encore le roi du tennis ou si Alcaraz a pris la relève.
Et que tu voulais ajouter quelque chose?
Mais je pense que l'intérêt du tennis dans les yeux du grand public, maintenant, c'est déplacé du Big Three grâce à Alcaraz. Et c'est surtout là que je veux en parler, parce que quand on parlait, oui, du changement de garde, mais les gens... Quand on sort du top 2, top 3, ils ne vont pas retenir les noms. Beaucoup de gens ne savent pas qui est Andrei Rublev, par exemple. Kasper Ruud, c'est des hauts et des bas. On a vu un petit peu plus Medvedev, Zverev. Mais avec Alcaraz, on a cette nouvelle superstar du tennis qui est née, qui fait que dans la tête des gens, on ne parlera plus seulement que de Federer, Nadal et Djokovic.
Bon, et ça, c'est intéressant. Et là, sans qu'on regarde trop loin, il y a le US Open. Mais le US Open est le tournoi où le Big Three a le moins bien fait. Parce on a eu Tim qui a gagné ce tournoi-là, Medvedev et Alcaraz.
Ouais.
Alors, est-ce que ce sera, là, je vous lance ça quelques semaines d'avance, là, à un mois et demi d'avance, mais bon, est-ce que Carlos Alcaraz va continuer sur sa lancée ou est-ce que Djokovic, selon vous, pourra remporter 3 des 4 Grands Chelems cette année, ce qui serait quand même une année complètement exceptionnelle? Je commence avec toi, Nico.
J'aurais besoin, je pense, d'un peu de recul pour répondre à ta question parce qu'Alcaraz...
Finalement, aujourd'hui, tu réponds pas aux questions.
Non. Mais regarde où je m'en vais. Je pense que les deux iront en finale à New York et je souhaite une finale comme ça à New York. Imaginez, les gars, un match comme ça avec la foule new-yorkaise. Ce serait exceptionnel, ce serait extraordinaire. Pour le moment, j'ai envie de te dire que Djoko, pour moi, demeure le favori parce que l'expérience, parce qu'il aura cette défaite-là à travers de la gorge, je pense, encore un bon moment. Il a quand même gagné, comme je le disais, 2 des 3 grands chelems. Évidemment, Alcaraz est le champion défendant. Il vient de gagner Wimbledon. Mais je pense que Djoko est encore un petit peu en avance. Mais tout ce qu'on souhaite, c'est une finale comme ça à la fin du mois, au début du mois de septembre, c'est-à-dire à New York, ce serait splendide et grandiose.
En même temps, je t'entendais parler à la radio ce matin, Hugues, et puis je trouvais tellement que tu avais raison. Tu disais, attention, le US Open, c'est peut-être le tournoi où ce sera le plus ouvert sur surface dure comme ça. Il y a peut-être des Sinner, des Tsitsipas, des Medvedev qui pourraient remporter. Alors, est-ce que ça ne va pas compliquer d'une certaine manière la tâche de Djokovic? Et là, c'est sûr, on spécule d'un mois et demi d'avance.
C'est difficile de dire, mais ce que je vois en ce moment, c'est qu'Alcaraz a monté le niveau de jeu du tennis en général avec ce qu'il produit en ce moment. Écoutez, les gars, sur le dernier jeu du match hier au service, sur la première occasion, il tente un amorti. Dans le même jeu, il réussit un lob fabuleux. Il réussit une volée gagnante. C'est un gars qui amène tous les coups du tennis à un autre niveau. Il a une audace que je ne vois pas à aucun niveau du tennis en ce moment. Je le répète, qu'il batte le plus grand tacticien, le plus grand joueur défensif du circuit, qui est Medvedev, qui trouve des solutions tout le temps, s'il facilement. Champion du US Open, tu l'as dit, en 2021. Moi, je pense qu'Alcaraz était à un autre niveau. Je vois pas comment son niveau va baisser d'ici l'US Open. La question, c'est est-ce que les autres vont réussir à monter assez pour le rattraper? Donc, moi, je pense qu'il est, il est parti pour une très bonne série, Alcaraz. Le niveau de jeu qu'il produit en ce moment est tout simplement à un autre niveau que tout le monde en ce moment.
Dernière question pour le cas Alcaraz, parce que je veux qu'on parle également de ce qui s'est passé du côté des femmes, parce que c'était bien intéressant aussi. Mais Hugues, toi, tu es entraîneur de tennis. Pour le grand public, là, qu'est-ce que Alcaraz fait? Tu sais, tu dis il y a le meilleur des trois. Est-ce que c'est parce qu'il est capable d'apporter beaucoup de puissance sur les coups dangereux? Qu'est-ce qu'il fait de si bien sur le terrain?
C'est la variété de coups qui fait qu'il est constamment en mode agresseur. Il y a toujours un coup d'avance sur l'autre. Ce que les autres joueurs ne vont pas réussir avec succès, lui, il va le réussir tout le temps. Donc, on parle de volée, on parle d'amorti, on parle de lob. Il camoufle bien ses coups. Et c'est là qu'il y a une différence par rapport aux autres. C'est qu'il y a une panoplie d'armes pour pouvoir agresser qui fait que les joueurs sont toujours pris. Je prends Medvedev comme exemple encore. Quand j'ai vu ce match-up-là, j'ai dit, OK, il va le faire bouger de l'arrière vers l'avant. On sait que Medvedev va recevoir très, très loin souvent. Fait qu'il a joué plus court sur les angles. Medvedev ne savait plus où se placer. Il aime bien courir de gauche à droite. Donc, il a complètement dominé. Et Djokovic a été pris à 3 mètres de la balle sur plusieurs coups. On ne voit pas ça souvent. Donc, c'est là où je pense que Alcaraz amène le jeu à un autre niveau. La variété de coups et son niveau de réussite.
Et il n'a pas eu peur de le faire déjà dans le dernier jeu alors qu'il sert pour le match.
Il est allé le chercher.
Deux fois, il l'a essayé avec l'amorti et la deuxième fois, ça a fonctionné. Ouais. Alors, bravo à Carlos Alcaraz. Nico, tu voulais ajouter quelque chose?
Rapidement, je pense aussi, puis il faut le souligner, ce qui réconforte les gens et ce qui fait en sorte qu'Alcaraz, Hugues l'a dit, est la nouvelle star du tennis, c'est que oui, il a un peu des trois dans le jeu, mais il a aussi beaucoup des trois dans l'attitude. Rappelez-vous, depuis qu'on a commencé le podcast, les gars ont dit que la nouvelle génération n'a pas la même classe que l'ancienne garde. Zverev, Tsitsipas, Medvedev, un peu des bad boys, des enfants gâtés parfois, des petits rois. Alcaraz, lui, quand est-ce qu'on l'a vu briser une raquette? Quand est-ce qu'on l'a vu enguirlander un officiel? Quand est-ce qu'on l'a vu envoyer une balle dans les spectres? Jamais. Donc, je pense qu'on était nostalgique d'une époque où la classe était privilégiée. Et avec Alcaraz, on a retrouvé ça, je pense.
Oui, ça, c'est intéressant.
Je pense, Alex, que c'est dans l'ADN du tennis, tout ça. Et ça, c'est pour ça que je pense que certains joueurs, les gens sont moins attachés à eux pour ça. Je pense que les gens voient ça d'une façon extrêmement, positive, cette attitude-là qui est toujours rayonnante. Il sourit, il est cool, il aime ce qu'il fait, ça paraît. Donc,
il est lui-même.
Oui, oui.
Il est lui-même.
Exact. Ça rejaillit d'une façon extrêmement positive sur le tennis.
Ben, bravo à Carlos Alcaraz, champion pour une deuxième fois et à Wimbledon, qui plus est. C'était spectaculaire du côté des hommes, mais celle-là était aussi du côté des femmes. On avait deux histoires extraordinaires. C'était deux scénarios de film là, pour la finale. D'un côté, Ons Jabeur, qui avait déjà perdu deux finales de suite, qui est assez sympathique. Elle était dans Breakpoint. Elle était à ça de briser le Breakpoint Jinx. Malheureusement, elle l'a confirmé une fois de plus, puisque c'est Marketa Vondrousova qui l'a emporté. Commentaire général sur cette victoire-là, Nico?
J'ai pas envie de saccager ton entente, mais il faut quand même les gars être réalistes. On regarde beaucoup de tennis. Là. C'est pas un match qui va passer à l'histoire nécessairement. Les histoires étaient remarquables, puis je pense que c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent, parce que Vondrousova revient d'une blessure au poignet, la première femme à gagner sans être tête de série, c'est digne de mention. Mais dans la manière, les gars, il faut quand même s'avouer que c'était pas la finale à laquelle on était en droit de s'attendre parce qu'on voyait Swiatek, parce qu'on voyait Sabalenka, Rybakina, bref, le Big Three. Et on se disait, bon, au moins Jabeur pourra remporter ce fameux grand chelem qu'elle veut tellement remporter, c'est-à-dire, et c'est pas arrivé. Vondrousova, oui, c'est une belle histoire, mais c'est pas la championne qu'on attendait. Et au niveau de la qualité du match, ça a été un peu en deçà de mes attentes, mais quand même, Vondrousova a gagné, elle l'a mérité, elle ne l'a pas volé, mais est-ce que ce match sera dans les annales du tennis? Je ne croirais pas.
Bien, moi, je suis d'accord avec toi. La qualité sur le terrain n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. Cela dit, commentaire général, Hugues, est-ce que tu vas dans la même lignée que Nico? Ou, tu sais, dans le fond, je vais cacher mon opinion, là, puis j'en parlerai après. Vas-y avec ton commentaire général.
Bien, on on s'attendait tous à ce qu'une des joueuses du nouveau Big Three, ou ce qu'on établit comme Big Three actuellement, se rende en finale et gagne. On avait Sabalenka pour plusieurs d'entre nous. Après, l'histoire d'Ons Jabeur est extrêmement intéressante. On sait qu'Ons Jabeur porte sur ses épaules le poids des espoirs de plusieurs femmes arabes, hein, qui veulent réussir au niveau du sport. Ça fait partie de sa mission à Ons Jabeur. Donc, elle était extrêmement déçue pour ça aussi. Donc, moi, je lui souhaitais de remporter ce titre après avoir vengé sa défaite en finale de l'année dernière, en 2022, contre Rybakina. Donc, c'était un peu une déception. Et le fait qu'une joueuse qui a une moins grande notoriété, Vondrousova, remporte le titre cette année, c'est peut-être pas idéal pour la notoriété du tennis féminin en ce moment. On voulait cette grande histoire-là que les gens ont pu suivre au fil des mois, mais quand même, Vondrousova, tu l'as dit, elle revient d'un poignet cassé il y a un an. Elle commence le tournoi au 41e rang. Elle se retrouve 10e ce matin au classement. Et qui sait ce qu'elle fera au US Open? Peut-être qu'on a découvert une nouvelle grande championne. Mais bon, où était Swiatek? Où était Rybakina? Où était Sabalenka en finale? Donc, c'est évidemment qu'il y a eu un peu moins d'attention sur cette finale-là et déception pour Ons Jabeur.
Je suis d'accord avec toi que, bon, au point de vue notoriété, là, Vondrousova, c'était peut-être pas la meilleure carte pour vendre le tennis, vendre la finale. Cela dit, mon point de vue à moi, c'est que c'est un investissement pour le futur parce que c'est une ancienne numéro un mondiale chez les juniors.
Finaliste à Roland-Garros.
Finaliste à Roland-Garros également. Elle est championne à Wimbledon. C'est un scénario de film ce qui s'est passé. Là, il y a un an, elle joue pas à Wimbledon, elle a le poignet brisé. Ouais. Ça peut être le genre de blessure qui tue une carrière. Là. Et elle revient et remporte Wimbledon alors qu'elle est même pas dans les têtes de série, alors que comme... Je pense pas qu'un de nous aura même pu gager un seul dollar sur Vondrousova en début de tournoi. Écoute, c'est peut-être une belle histoire, c'est peut-être un investissement pour le futur. Bon, selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence? Hugues, je commence avec toi.
Écoute, je pense qu'émotivement, encore une fois, Ons Jabeur dans ces moments-là, autant ce qui fait qu'elle est attachante et qu'on l'aime beaucoup, peut-être que cette solidité, la fameuse dureté du mental, il lui manque peut-être un petit quelque chose à ce niveau-là pour aller chercher ces matchs-là, parce qu'elle avait le jeu parfait pour gagner Wimbledon. Elle a prouvé qu'elle pouvait se défendre contre les joueuses les plus puissantes, comme Andreescu, contre Sabalenka. Il n'y a pas de problème. Avec son jeu extrêmement varié, ses coups en toucher, ses slices, ses approches au filet. Donc, je pense que c'est au niveau mental, encore une fois, qu'elle perd en 2-7 quand même, 6-4, 6-4. C'est un petit peu trop court pour moi, donc je pense que c'est au niveau mental que ça s'est joué.
Nico, pour ajouter, qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Qu'est-ce qui a fait que Marketa Vondrousova est devenue championne de Grand Chelem?
Une seule chose, la piètre qualité du service de Ons Jabeur. Les gars, les chiffres là, étaient en deçà de 50% pour le nombre de premiers services qui passaient, le nombre de points en première et le nombre de points en deuxième dans une finale de Grand Chelem contre une fille qui a un coup droit aussi particulier et dur à négocier et à lire. Tu ne peux pas te permettre d'envoyer des balles flottantes. Et c'est ce qu'a fait Jabeur tout au long du match. Et ça l'a rattrapé, on l'a vu. Et les gars, quand même, là, elle a battu Kvitova, mais je me demande à quel point le fait que Vondrousova soit gauchère a joué en ligne de compte parce que les services sortants étaient fumants. Et c'est de plus en plus rare que des joueuses gauchères parviennent à percer l'élite mondiale. Je regardais pour... je sais que ça va intéresser les fans de tennis en vous, les gars. La dernière championne Grand Chelem gauchère, c'est Angélique Kerber en 2018 à Wimbledon. Ça fait 5 ans qu'une gauchère n'a pas gagné le tournoi du Grand Chelem. Donc, je me demande, c'est peut-être un détail anodin, mais je me demande à quel point ça aurait peut-être pu déranger Jabeur, qui n'est pas habitué de faire face à des joueuses gauchères.
Bien, c'est peut-être à pas négliger. Et tu sais, un pourcentage de première balle en bas de 50%, c'est pas bon. Mais un pourcentage de balles gagnées, de points gagnés en première balle en bas de 50%, ça frôle l'inacceptable au niveau professionnel. Ça se peut pas. Tu sais, même, en tout cas, c'est impossible de gagner un match si tu ne gagnes pas une balle sur deux sur ton premier service. Bon, donc ça c'est intéressant. Est-ce que l'aspect gaucher peut avoir eu un effet selon toi, Hugues?
Sûrement. On n'est pas toujours habitué à négocier ces effets-là, bien que généralement, quand on sait qu'on joue contre un gaucher ou une gauchère, on se prépare, on va se trouver un partenaire d'entraînement qui va être gaucher ou gauchère pour être adapté aux effets qui sont inversés. Mais c'est certain que sur une surface comme le gazon où la balle glisse beaucoup, le fameux service sortant du côté avantage pour le gaucher, il est très payant. Un certain John McEnroe en a fait son pain et son beurre. Les gars ne pouvaient pas retourner ses balles parce que la balle sortait du terrain carrément du côté avantage.
Donc,
c'est un vrai avantage, là. Oui, tout à fait.
Moi, ce qui me fascine dans le cas de Ons Jabeur, c'est que Vondrousova était de loin l'adversaire la plus prenable des derniers tours. Elle venait de battre coup sur coup, si je ne me trompe pas, Andreescu, Kvitova, Sabalenka, toutes des championnes de Grand Chelem. Et là, elle arrive contre Vondrousova. Alors, c'est, je ne sais pas, est-ce qu'il a manqué de gaz parce qu'elle a battu trop de joueuses aussi bonnes?
Peut-être pas un manque de gaz, mais peut-être un trop plein de confiance.
Ben, c'est ça.
Mais comment tu peux être trop plein de confiance quand tu as déjà perdu deux finales de Grand Chelem? Je veux dire, je sais pas. En même temps, tu n'as pas le choix d'être confiant, je sais pas.
Je pense qu'elle avait fait le plus dur dans sa tête. N'oubliez pas, elle a vengé sa victoire, sa défaite de 2022 contre Rybakina. Tu l'as dit, elle bat quatre championnes de majeur pour s'y rendre. Sur papier, c'est le match le plus facile. Donc, je pense qu'elle a peut-être un petit peu relâché. Puis encore une fois, je pense que mentalement, puis Nico l'a bien dit au niveau du service, il y a quelque chose qui n'était pas normal pour Ons Jabeur dans ce match-là. Ce n'est pas les performances qu'elle a livrées contre les quatre anciennes championnes de Grand Chelem. Donc, oui, je pense que peut-être qu'elle avait un peu trop de confiance en arrivant sur le central hier.
Et moi, j'ai une question pour le capitaine Canada, qui est Alex Rejimbald. Est-ce que ça relativise la défaite de Bianca Andreescu?
Je ne sais pas si ça relativise la défaite de Bianca. Oui, je pense. mais c'est intéressant. Mais c'est juste que dans le cas de Bianca, malheureusement, on n'a plus trop d'attentes pour l'instant. T'sais, on prend ce qui passe. Si elle gagne, on est content. Puis si elle ne gagne pas, on est bon. Mais elle n'a rien fait pour monter les attentes dans les deux dernières années.
Moi, j'ai beaucoup aimé Wimbledon de Bianca Andreescu. J'ai très, très hâte de la revoir sur dur dans la série qui s'entame dans les prochaines semaines, jusqu'au US Open, qu'elle a gagné d'ailleurs en 2019. Moi, je pense que Bianca est sortie avec le sourire de Wimbledon. Elle est satisfaite de son tournoi. Elle aurait pu remporter ce match contre Jabeur s'il n'y avait pas eu cette fameuse pause de pluie où Jabeur s'est justement ajusté sur son service au retour après. Mais Bianca, moi, je reprends confiance à Bianca et j'ai très hâte de voir ses prochains matchs.
Tu parles, Hugues, du US Open 2019, qu'on pourrait la revoir, mais moi, les gars, j'ai hâte de la revoir. Il y a un tournoi à Montréal qui s'en vient, paraît-il, dans pas trop longtemps.
Tu seras pas là?
Non, je serai à Toronto, mais quand même. C'est un tournoi qui pourrait être prenable pour Bianca. Imaginez ce que ça pourrait donner, les gars.
Scénario de rêve.
Tous les tournois sont prenables dans le cas de Bianca Andreescu. On le sait, il n'y a personne qui va tomber en bas de sa chaise si elle remporte un tournoi. Grand Chelem, un Masters Mill, nommez-les, il n'y a personne qui va être surpris. Avant qu'on aille à la pause, deux petites histoires dont je veux qu'on parle, parce qu'on en a parlé un peu la semaine passée, mais je veux qu'on mentionne les histoires d'Elina Svitolina qui a été incroyable. Et c'est presque dommage d'une certaine manière, parce que quelle histoire ça aurait été si elle avait pu gagner dans le contexte, et si on avait eu une finale contre Sabalenka, dans le contexte politique qu'on connaît, ça aurait été toute une histoire, mais c'est quand même phénoménal ce qu'elle a réussi à faire. Elle vient d'accoucher ou à peine, là. Elle a presque pas joué cette année. C'est quand même assez spectaculaire. Ça va être une joueuse à surveiller pour le US Open.
On en voit de plus en plus. Je me souviens de ce que Valérie Tétrault a souligné lors de la conférence de presse de l'annonce du tableau. C'est chouette de voir des mères réussir. On aura Wozniacki à Montréal, qui elle aussi a donné naissance à des enfants dans les dernières années. C'est chouette. On a vu Kim Clijsters dans les dernières années aussi. Donc, c'est chouette que ces femmes-là aient un modèle et aient l'espoir que c'est possible. J'ai hâte d'avoir Naomi Osaka aussi dans les prochaines années. Va-t-elle revenir à un niveau acceptable? Bref, c'est un nouvel enjeu. C'est une nouvelle situation, un nouveau contexte, mais qui, je pense, fait du bien au tennis.
Et pour l'autre histoire, est-ce que Christopher Eubanks est un des nouveaux chouchous du circuit de l'ATP?
On verra, mais effectivement, c'est le joueur qui a la plus grosse montée au classement des dernières semaines. Il se retrouve dans le top 30. Il a eu de la difficulté à rentrer dans le top 100 il y a quelques mois. Mais je pense que les Américains, les fans de sport, de tennis américain l'ont adopté. C'est un gars qui a un très grand charisme, très, très beau jeu. Il était soutenu par Coco Gauff et son entourage aussi jusqu'au bout. C'est une des deux belles histoires ou trois belles histoires. Je mettrai Andreeva aussi là-dedans. Mm-hmm. Mais Eubanks... Écoutez, souhaitons qu'il puisse confirmer dans la série qui mène au US Open, parce que c'est un joueur qui est vraiment le fun à regarder, puis on aime ça, ce caractère-là. On parlait de Alcaraz plus tôt, c'est un peu la même attitude qu'il a, Eubanks, sur le terrain. Il sourit beaucoup, c'est rafraîchissant, tout est plus relax, là, donc très, très belle histoire, puis belle réussite à Eubanks.
Et Nico, tu vas avoir la chance de le voir à Toronto, parce que si je ne me trompe pas, il est dans le top 43, il sera dans le tableau principal directement à Toronto, alors ce sera intéressant, lui, de le suivre. Messieurs, Mathieu, pour l'essentiel, la saison de gazon, elle est terminée, là, mais il reste un tournoi à Newport. C'est pas le temple de la renommée du tennis. Exactement. Et par ailleurs, il y a Gabriel Diallo qui va être là. Et lui, il a un jeu formaté pour jouer sur gazon. Ça va être intéressant de le suivre à Newport. Tournoi que tu es déjà allé, d'ailleurs, si je ne me trompe pas.
C'est un site sublime à Newport. Si vous avez envie de faire un petit week-end, là, c'est à 6 heures de Montréal environ. C'est pas très loin. C'est très facile d'y aller. Donc oui, tu as le temple de la renommée du tennis avec tous les grands champions qui ont été intronisés là, des terrains en gazon, ce qui fait que les gros serveurs aiment ça, se retrouver là après Wimbledon. C'est une façon d'un peu étirer leur saison sur gazon et d'aller chercher un petit peu plus de points et de bourses. Mais Gabriel Diallo a un bon jeu pour cette surface-là. Donc, il est à Newport cette semaine. Il sera à suivre. C'est le gagnant de Granby l'an passé. On y est en ce moment où on se parle. Donc, oui, Gabriel, que dire, c'est une bonne saison. Il est tout près de rentrer dans les tableaux principaux des Grands Chelems. Je pense qu'il va aller chercher des points justement pour se rapprocher du US Open et éviter de faire les qualifications. C'est une très bonne année pour Gabriel Diallo en ce moment.
Et lui, il est sorti des collèges américains et il a bien fait. Je pense qu'il était prêt, il était mature. Je pense que son été de l'année passée lui a prouvé beaucoup de choses et ça a été, je pense, une bonne décision. Ça n'a pas été le cas dans beaucoup de joueurs. Des fois, ça peut être risqué de sortir rapidement ou même d'aller du côté des collèges américains. Alors, bravo Gabriel Diallo et bonne chance à Newport. Tu as parlé de Granby, on y est. D'ailleurs, après la pause, on parle à Patricia Simard et Richard Quirion. On va mettre la table pour les championnats Banque nationale de Granby.
Rendez-vous le dimanche 23 juillet à 9h à l'Hôtel Montville pour une séance de yoga collective inoubliable au 20e étage. Entre amis, en famille ou en couple, rejoignez-nous. Et pour les plus gourmands, l'offre yoga et petit déjeuner vous permettra de vous régaler après l'effort au restaurant Monem. Rendez-vous sur hotelmontville.com. Est-ce que vous planifiez une escapade estivale à Montréal? Profitez de l'emplacement idéal de l'Hôtel Montville pour explorer toutes les merveilles de la ville. Avec notre offre Restez plus et économisez, prenez le temps et bénéficiez de 15% de réduction sur 3 nuits minimum, 20% de réduction sur 5 nuits minimum et 25% de réduction sur 7 nuits minimum. Retrouvez l'offre sur hotelmontville.com.
De retour au Radio Podcast sur la ligne, le Radio Podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Parlant de Banque Nationale, on est en direct aujourd'hui des championnats Banque Nationale de Granby. On a enregistré l'émission ici même à Granby. Et bien, pour l'occasion, on reçoit Richard Quirion, directeur du tournoi, et Patricia Simard, qui est la colonne vertébrale de ce tournoi-là. D'ailleurs, je vais commencer avec toi, Patricia. Peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es une vedette ici sur les terrains de tennis à Granby, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, peut-être expliquer un peu ton rôle et ce que tu fais au sein de l'organisation du tournoi. Là.
Bien sûr, j'ai été nouvellement nommée directrice générale ici à Granby. C'est la première permanence qu'on a ici pour le tournoi. Avant, j'étais aux communications. Donc, c'est sûr que pour cette année, j'ai plusieurs chapeaux encore côté communication et côté gestion. Mais je pense que je suis vraiment contente. Puis je pense que l'organisation aussi, là, on est content d'avoir une personne en permanence là, qui va s'occuper peut-être du développement du tournoi ici à Granby.
Oui, parce que c'est quand même pas, même si c'est un petit tournoi, si on compare à Wimbledon, c'est quand même une méchante grosse organisation et c'est un tournoi de haut calibre. Justement, Richard, c'est toi qui a connu tous les niveaux de tournoi, peut-être expliquer aux gens quel niveau de tournoi c'est les championnats Banque Nationale de Granby et quel genre de joueurs on y retrouve.
Ouais, ben, le tournoi, c'est un tournoi combiné ITF et ATP. Côté ITF, ben, c'est le plus haut niveau de tournoi Challenger ITF qu'on peut organiser. Donc, de ce côté-là, ça ne peut pas aller plus élevé que ça. Puis d'ailleurs, on a une joueuse qui est classée quand même 14e au monde dans le tournoi. Donc, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement la norme d'avoir une joueuse 14e. C'est quelqu'un qui revient d'une série de blessures, qui utilise son classement protégé. Mais d'avoir des joueuses dans le top 100 mondial, ce n'est pas nécessairement exceptionnel pour ce type de tournoi-là. Donc, le calibre est extrêmement élevé. Du côté des hommes, alors là, on a quand même quelques joueurs de très, très haut calibre. On en a plusieurs dans le top 200. C'est un tournoi niveau 100. Au niveau du tournoi du circuit Challenger Tour, il y a quelques tournois supérieurs de ce niveau-là, mais très, très peu. C'est un tournoi très, très élevé. C'est le tournoi Challenger le plus élevé qu'on a au Canada. Et on a un top 100 mondial qui est Anastasia Kokkinakis, qui est champion en double d'un tournoi Grand Chelem. Et puis, on a quand même plusieurs joueurs canadiens aussi qui font partie du tournoi avec Vacek Pospisil, par exemple, aussi champion d'un grand chelem en double, champion du monde au tennis en équipe avec l'équipe canadienne. Donc, et puis, en plus, Alexis Gallarneau qui faisait partie également de l'équipe qui a remporté la Coupe Davis. Donc, le tournoi vraiment est plein de bons joueurs de partout dans le monde, puis aussi d'extrêmement bons joueurs du Canada qui ont de bonnes chances de remporter aussi le tournoi, là.
Oui, ben, tu parlais de joueuse 14e mondiale. Tu fais référence à Jennifer Brady, qui elle aussi, elle a été finaliste en Grand Chelem en Australie il n'y a pas si longtemps quand même. Alors, ça vous donne une idée du calibre de joueurs qu'on peut retrouver ici. Et Patricia, je me retourne vers toi parce que, bon, on a parlé du calibre de jeu qui est assez exceptionnel. Mais peut-être nous dire un peu comment ça coûte venir voir ce tournoi-là parce que c'est vraiment pas cher pour la qualité de spectacle qu'on a, là.
Exactement, parce que les billets sont en bas de 30 $ là. Je crois qu'il y a seulement au final là, qu'on peut payer 32 $ puis c'est pour la journée au complet, donc ça inclut la journée et la soirée. Vous pouvez visiter le site web pour avoir les prix exacts, là. Mais non, c'est vraiment pas cher pour venir passer une super belle journée ici. Puis ce qui est le fun à Granby, c'est qu'on a une proximité aussi avec les joueurs. Qu'on soit sur le central ou sur le site, les joueurs sont là avec nous. Sur le central, on est toujours proches. Mais je pense que ça, les gens, quand ils viennent pour la première fois, là, ils reviennent toujours parce qu'ils aiment beaucoup cette expérience-là.
Oui, non, c'est vrai. Et vous pouvez voir, là, on est ici, là, vous entendez peut-être les balles derrière nous, des gens qui pratiquent. Vous pouvez voir les athlètes pratiquer, des athlètes de haut niveau. Des fois, c'est des joueurs qui ont été longtemps sur le circuit de l'ATP et qui reviennent faire des fois des tournois un peu plus bas. Et des fois, c'est des joueurs de la relève. Nico, je te laisse avec ta prochaine question.
Justement, sur le point de la proximité, oui, on parle des joueurs, mais quels sont les commentaires des partisans qui viennent? Parce qu'on l'a dit, la qualité est assez relevée. Et en même temps, on a une proximité avec ces athlètes-là qui peuvent jouer des grands chelems, justement. Donc, quels sont le genre de commentaires que vous recevez des amateurs?
Ce serait à moi. Les commentaires sont excellents. Et puis, pour les gens, surtout les amateurs de tennis qui ont la chance de venir aussi au tournoi à Montréal, par exemple, la différence entre assister à un match sur le central à Granby et le central à Montréal, c'est vraiment exceptionnel comme différence parce que tu as l'impression presque de faire partie du jeu. Tu es presque assis sur le terrain et puis tu as l'impression même que le jeu est encore plus rapide. C'est un peu comme quand tu fais du go-kart versus tu conduis ta voiture, tu sais comment que le feeling de vitesse est exceptionnel, bien c'est un peu la même chose. Et puis, donc les services rentrent très, très, très rapidement. Puis je me rappelle quand Milos Raonic a fait son premier tournoi ici, il a fallu qu'on augmente un petit peu la hauteur du mur arrière parce que les gens commençaient à recevoir la balle en plein visage. Donc ça vous donne un petit peu... un petit exemple là, de la proximité du jeu. Puis, mais ça, c'est quelque chose qu'on revoit dans le tournoi Challenger. Puis c'est vraiment ce qui donne, je dirais, le prestige à ces tournois-là, c'est la proximité. T'sais, on peut se promener puis rencontrer les joueurs qui sont tout à fait relax avant leur match. On peut assister à leur pratique à côté sur la clôture, à les regarder frapper de très près. Et puis, sérieusement, rien de plus impressionnant là, pour les amateurs de tennis de regarder des joueurs s'entraîner, à quel point que ça a l'air facile, le tennis, quand tu les vois s'entraîner, puis de les voir vraiment proches comme ça. Ça donne le goût aussi d'embarquer sur le terrain. T'sais, c'est ça aussi, le tournoi sert à donner... essayer de faire la promotion de notre sport, c'est vraiment certain. Puis quand tu les vois comme ça de près, puis tu les côtoies, bien, c'est sûr que ce goût-là, bien, il vient vraiment te chercher, puis tu as le goût d'aller embarquer sur le terrain aussi. Là.
Hugues?
Oui, parlez-nous un peu des tableaux maintenant. Beaucoup de joueurs et de joueuses qu'on connaît bien. Donc, Rebecca Marino, tête d'affiche côté féminin, Kokkinakis côté masculin, on en a parlé. Vedette de Breakpoint sur Netflix, il faut le dire. Hein? Un ami aussi de Nick Kyrgios, tu l'as dit, Richard, ils ont gagné en Australie le double masculin ensemble. Mais parlez-nous un peu du tableau, à quoi ça ressemble cette année, quels match-ups sont intéressants. Il y a Victoria Mboko qui revient d'une autre victoire à Saskatoon. Elle a défendu son titre. Il faut dire qu'elle a seulement 16 ans. Elle est deux fois championne d'un tournoi professionnel déjà à 16 ans. Donc, parlez-nous un peu des tableaux des deux côtés cette année.
Oui, bien, on a vraiment d'excellents tableaux. D'ailleurs, je me félicite pour le tirage au sort. mais non, sérieusement, les match-ups sont vraiment bons. Moi, premièrement, ça commence ce soir. On commence avec 9 matchs tableau principal dans les deux tournois ce soir. Et puis, dès ce soir, on va voir Brady à l'œuvre. Et puis, moi, ce qui m'intéresse vraiment ce soir aussi, ça va être de voir Alexis. Alexis n'a pas pu participer l'année passée au tournoi. Lui qui a tenté sa chance au US Open pour essayer de rentrer dans les qualifications. Donc, et puis, il l'a regretté, on ne se le cachera pas. Là, ça a été quand même malheureusement une petite déception de sa part. Il n'a pas pu rentrer dans le tableau. Donc, il revient ici. Il y a énormément d'attentes. On s'attend à avoir à peu près une trentaine d'invités pour voir le match d'Alexis juste dans sa famille, dans un stade qui va compter à peu près 950 places. Donc, l'ambiance va être extrêmement incroyable aujourd'hui. Puis je pense que s'il passe à travers de ce premier match-là, ça risque d'être quand même de bon augure pour le reste des choses. Sinon, ben oui, on parlait de Victoria Mboko. On a quand même plusieurs bonnes joueuses canadiennes qui font très bien. La relève chez les femmes est extrêmement positive. Victoria Mboko, je me trompe peut-être, mais elle a quoi, 16 ans? 16 ans, c'est probablement le plus bel espoir chez les femmes qu'on a au Canada. Elle a remporté l'année passée son premier tournoi professionnel en catégorie 25 000 et est retournée à Saskatoon le défendre la semaine passée dans un tournoi 60 000. Et puis, elle a quand même remporté le tournoi en gagnant en deux sets d'affilée. Donc, vraiment, c'est probablement la joueuse qui frappe le plus fort que j'ai jamais vue. Puis, elle a seulement 16 ans. Donc, vraiment, l'avenir est très, très beau pour elle. Sinon, ben, ça va être intéressant de voir Vacek Pospisil également. Lui qui a remporté à Drummondville l'an passé au Challenger Banque nationale de Drummondville. Et puis, ça l'a vraiment mis dans une bonne position pour, après ça, se rendre à Malaga en Espagne puis remporter le tournoi. Et puis, on sait à quel point que Vacek est populaire. Puis, jouer devant des foules, c'est extrêmement… disons que ça le met dans des bonnes positions. Puis, quand il est venu hier sur le site, puis il s'est rendu compte à quel point la qualité des installations, et puis il se rappelle aussi à quel point que le tournoi est populaire, bien, je pense qu'il est vraiment, vraiment excité à venir jouer. D'ailleurs, on devrait le mettre sur le terrain central demain en soirée. Ça devrait être ça. Et puis, on pense bien que les billets vont s'emballer très, très rapidement. Donc, non, en résumé, les matchs vont être très, très chaudement disputés. La parité dans les tournois Challenger est extrêmement bonne. Les joueurs sont presque du même calibre là, au niveau du tableau principal. C'est peut-être des fois un peu moins le cas dans les qualifications où est-ce qu'on peut avoir des écarts entre les niveaux. Mais dans le tableau principal, c'est vrai, quand on dit ça se passe entre les deux oreilles, c'est carrément le cas. Puis il y a… le calibre est extrêmement élevé, puis ça va être vraiment ceux qui vont être dans les meilleures conditions, autant physiques que mentales, qui vont remporter. Quand on tient un tournoi ici en seul québécois, seul canadien, bien, c'est sûr que ça donne beaucoup de chance à nos joueurs. Ils sont à l'aise de jouer ici. Fait que souvent, c'est pour ça qu'on voit que les résultats sont très, très bons ici chez nous.
Richard, tu as parlé de l'ambiance et peut-être j'aimerais tourner vers toi parce que c'est vraiment, tu as parlé de la proximité, mais l'ambiance aussi, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Dit sur le central, c'est à peu près 900 places, mais c'est généralement près d'être à pleine capacité. Là. C'est pas rare qu'il y ait plus de monde ici que dans certains tournois ATP ou WTA dans le monde. Je pense pas que je me trompe, Richard, en disant ça. Si tu avais à résumer en quelques mots, là on a dit proximité, ambiance, mais si tu avais d'autres mots pour résumer ce tournoi-là, ce serait quoi?
Mais je pense que je finirai en disant un mot pour nos 384 bénévoles qui ont mis les mains à la pâte cette année. Puis je pense que les installations cette année se sont un peu surpassées. Là. On était en avance, puis je pense qu'on a un beau site. Je pense que ça serait un peu ça que je dirais. En gros.
Passion, le dernier mot peut-être, parce passion, que ces bénévoles-là.
Oui. C'est sûr que les bénévoles ici, c'est des passionnés. Là. La première année que je suis arrivée ici, je suis tombée en amour avec le tournoi justement à cause de ça, parce que je voyais la passion dans les yeux de tout le monde. Je me disais, mon Dieu, quand tu fais 28 ans de bénévolat ici, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une petite magie qui se passe. Là. Ouais.
Tu sais, dans le passé, on a vu passer des joueurs ici comme Eugénie Bouchard, Vacek Pospisil, Milos Raonic, tu en as parlé, Bianca Andreescu, la plupart des meilleurs joueurs canadiens ont passé par ici. Et tantôt, tu disais, bon, Victoria Mboko, c'est un des plus bels espoirs au Canada. J'allais aller plus loin que ça. Moi, j'allais dire, c'est un des plus bels espoirs au monde au tennis. Alors, tu sais, vous avez la chance d'avoir à quelques mètres, et vous allez pouvoir dire, peut-être dans quelques années, j'étais là. Je l'ai vu jouer, moi, à 15-16 ans. Et moi, c'est ce qui me fascine depuis plus de 10 ans que je couvre ce tournoi-là. C'est vraiment… cette façon de pouvoir voir certains des meilleurs joueurs au monde. On a parlé de Thanasi Kokkinakis, qui est champion de Grand Chelem. Également, je pense que ça vaut la peine pour un prix modique. Richard, Patricia, je vous remercie infiniment. Bonne chance cette semaine. Bonne chance pour le tournoi. Et puis, souhaitons-nous peut-être une victoire canadienne. Là, on va être chauvin. De notre côté, on va faire une courte pause. Au retour, Alexis Gallarneau.
Rendez-vous le dimanche 23 juillet à 9h à l'Hôtel Montville pour une séance de yoga collective inoubliable au 20e étage. Entre amis, en famille ou en couple, rejoignez-nous. Et pour les plus gourmands, l'offre yoga et petit déjeuner vous permettra de vous régaler après l'effort au restaurant Monem. Rendez-vous sur hotelmontville.com. Est-ce que vous planifiez une escapade estivale à Montréal? Profitez de l'emplacement idéal de l'Hôtel Montville pour explorer toutes les merveilles de la ville. Avec notre offre Restez Plus et Économisez, prenez le temps et bénéficiez de 15% de réduction sur 3 nuits minimum, 20% de réduction sur 5 nuits minimum et 25% de réduction sur 7 nuits minimum. Retrouvez l'offre sur hotelmonville.com.
Avant de passer à Alexis Garneau, on a eu la chance de rencontrer quelques autres joueurs au courant de la journée. On a parlé notamment à Rebecca Marino et à Vacek Pospisil. Voici un extrait.
On t'a vu à TSN pendant Wimbledon, ouais. Commenter, analyser le tennis. Comment tu as trouvé l'expérience? Est-ce que tu vois, est-ce que tu penses que tu pourrais faire ça après ta carrière à la télé?
Oui, peut-être, je ne sais pas. Mais ouais, c'était quelque chose de cool de faire. J'ai eu du temps. Je n'étais pas vraiment en entraînement en ce moment. C'était fun et peut-être je vais le faire, mais juste quelques semaines pendant l'année. Je pense pas que c'est quelque chose que je vais faire full time, c'est sûr.
Qu'est-ce que ça fait d'être de retour ici? Un tournoi, tu as déjà gagné. En fait, ça, d'une certaine manière, ça a été un tremplin pour toi ici en 2012. Qu'est-ce que ça te fait d'être retrouvé ici?
Ouais, juste très belles émotions. Je me souviens quand j'ai gagné ce tournoi. J'étais avec Frédéric Niemeyer, il était mon coach et c'était une très grande victoire en 2012 déjà pour moi. Alors oui, si je pouvais le répéter cette année, ce serait super bien. Je vais juste prendre les émotions positives de 2012 et essayer de le prendre dans le match demain. Et j'espère que je peux gagner demain et après dans tous les matchs. Ouais.
Vacek, tu as remporté le Challenger de Drummondville à l'automne dernier avant de partir à Malaga pour remporter la Coupe Davis. Maintenant, tu es à Granby. À quel point c'est important pour toi maintenant de jouer ces tournois-là qui semblent être des tremplins souvent pour autre chose?
Oui, certainement. Maintenant, oui, à 33 dans ma carrière, j'ai fait pas mal de belles résultats pendant une dizaine d'années. Oui, pour moi, certainement, c'est quelque chose que je peux prendre comme un tremplin, comme vous direz, pour les tournois qui suivent. Dans quelques semaines, je joue à Toronto, le Masters. Alors, mais ça ne veut pas dire que si je gagnais ce tournoi, ce ne serait pas un très, très bel moment. Mais c'est sûr que je viens pour gagner. Ça, c'est ça. Si je fais finale, je vais prendre les positifs, c'est sûr, mais je veux gagner. Et si je gagne, OK, après, c'est, je peux dire, un autre très, très bel moment de ma carrière parce que un peu plus âgé et c'est toujours un grand tournoi. C'est pas un petit tournoi. Il y a des bons joueurs et il y a tellement beaucoup de monde qui vient. Alors, ça serait un bel moment, certainement.
On te le souhaite.
Peut-être un dernier commentaire là, sur Alcaraz, sa victoire à Wimbledon. À quel point c'est spectaculaire ce qu'il réussit à faire à son âge?
Alcaraz? Ouais. C'est tellement impressionant parce qu'il a 20 ans, il a déjà gagné deux Grand Chelem. C'est un joueur très spécial, ça c'est sûr. Même le mental, il est très, pour 20 ans, il est très mature. Mm-hmm. Mature. C'est très rare de voir ça. Même physiquement, il est à un niveau qui, normalement, si tu regardes quelqu'un qui a 20 ans ou qui a 19 ans, 20 ans, tu dis OK, il a quelques années de. Pour son corps de remplir un peu, prendre la force, mais Alcaraz déjà il a un corps de quelqu'un qui a 28, alors certainement il est quelqu'un spécial.
Et Novak, tu le connais bien,
ouais.
Penses-tu qu'il va revenir plus fort?
Oui, mais je sais pas s'il peut revenir plus fort parce qu'il a déjà joué le niveau qu'il a joué en Australie, c'était énorme. Énorme niveau. Après Roland Garros, peut-être il n'a pas joué son meilleur niveau, mais il a toujours gagné. Mm-hmm. Et à Wimbledon, il a joué un niveau très très fort. Je pense pour lui, il a juste tellement de confiance dans soi-même et je sais qu'il veut toujours gagner les grands chelems, ça c'est sûr. Alors, je pense qu'il va être en force encore les prochaines. Certainement. Un an, certainement, deux ans, on va voir, et après, je ne sais pas.
Merci beaucoup.
Merci, Vincent.
Dernier bloc de l'émission, et là, Hugues, on est en compagnie de notre préféré, notre favori, Alexis Galarneau. Comment ça va, Alexis?
Ça va bien, et vous?
Ça va très bien. On est très content de te recevoir au podcast sur la ligne une fois de plus. Tu es en préparation pour le tournoi de Granby. Avant qu'on parle de Granby, je veux savoir, parce que ça fait quand même un petit bout qu'on s'est parlé. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était la saison un peu plus difficile, mais là, les choses ont commencé à se replacer dernièrement.
Oui, c'est ça. Début de saison un peu compliqué, avec une petite blessure au poignet. Donc, j'ai été obligé un peu d'arrêter les tournois, soigner le poignet, renforcer un peu le corps. Mais maintenant, je me sens en bonne forme. Je sens que mon tennis progresse bien, donc je suis content où est-ce que je suis.
Et quels sont tes objectifs pour la semaine? As-tu déjà pensé à un tour comme tel ou un match à la fois?
Non, c'est sûr, un match à la fois, ça c'est toujours la clé pour n'importe quel joueur de tennis. Je pense que c'est important de ne pas trop se projeter. Par contre, j'aimerais ça atteindre les finales. Jouer ici dimanche, je pense que ça serait une belle occasion de jouer devant la foule québécoise puis de faire un beau match.
Peut-être avant que je passe à ta question, Hugues, on en parlait hors d'onde, de dire à quel point c'est un tournoi fort, les championnats Banque nationale de Granby. Comment toi, comme joueur, tu pourrais essayer d'expliquer à un partisan à quel point il y a du talent et à quel point le tennis qui est ici, c'est du tennis de grande qualité quand même?
Oui, je pense que si on prend l'exemple du hockey, je pense qu'il y a certains bons joueurs de deuxième, troisième trio de la NLH qui sont ici. Donc, c'est les joueurs à battre, c'est aussi les favoris, les seeds. Donc, il y a beaucoup de bons joueurs. Le niveau de tennis en général, à tous les niveaux, continue d'être de plus en plus dense. Donc, c'est ça, on est prêt à tout.
Je trouve que tu es même sévère, tu es même humble dans la façon de le qualifier parce que, écoute, quand il y a des joueurs qui frôlent le top 100 ou qui sont dans le top 100, ce serait possiblement l'équivalent de joueurs de premier trio là, dans la Ligue nationale de hockey. Une question pour Alexis.
Puis je rajoute un point, n'oublie pas qu'il y a des Canadiens comme Diallo il y a un an qui a gagné ici, que ça a été un peu un tremplin pour lui après. Eugénie Bouchard, son premier tournoi professionnel après avoir gagné Wimbledon Junior avait été ici puis elle avait connu une saison fabuleuse par la suite. J'aimerais que tu nous parles quand même de ton match contre Kei Nishikori la semaine passée à Chicago, ancien numéro 4 mondial qui revient. Vous devez jouer à l'intérieur, j'imagine, à cause des conditions météo à Chicago. C'est peut-être pas prévu comme ça, mais reviens un peu sur ce match-là la semaine passée, s'il te plaît.
Ouais, très belle expérience de jouer contre Kei. J'ai souvent regardé son jeu pour essayer de m'en inspirer. Certaines parties de son jeu qui reflètent dans le mien. C'est pas nécessairement le joueur avec le plus gros service. Par contre, il se déplace super bien, il prend la balle tôt, donc je l'ai toujours suivi un peu son parcours et tout. Donc, de le jouer, c'était quelque chose. Puis, ça m'a pris un petit peu de temps avant d'être à l'aise sur le terrain. C'est sûr que le changement de surface, changement d'environnement, de jouer à l'intérieur, c'était pas évident pour les deux joueurs. Donc, pour ça, j'étais prêt. J'ai été un peu déçu de ma qualité de match. Je pense que mon niveau de jeu n'était pas au meilleur, donc ça c'est plate après d'avoir ça à comparer avec le joueur que j'ai affronté. Par contre, je pense que j'ai appris beaucoup de ce match.
Parle-nous un peu de la suite justement, donc les prochaines semaines, là, ton horaire ressemble à quoi?
Ouais, c'est une belle période en ce moment, durant l'été, de jouer à l'extérieur sur le dur. C'est une de mes surfaces préférées, donc je me sens à l'aise, j'ai grandi sur ça. Donc là, ici à Granby, je vais essayer d'en tirer le max. Puis ensuite, si jamais je ne me rends pas dans le week-end ici, je vais aller à Atlanta pour jouer les qualifications du 250. Par la suite, une possibilité de jouer à Washington la semaine d'après. Puis ensuite, préparation pour Toronto, pour l'Omnium.
Justement, comment tu vois cette préparation-là? Est-ce que, tu sais, pour les amateurs purs et durs, Alexis Galerno était quand même connu, mais tu es comme devenu mainstream après l'Omnium Banque Nationale. Un an plus tard, est-ce que cette nouvelle notoriété a changé là, Alexis Galerno? Est-ce que ça a apporté des choses différentes?
Non, mais je pense pas que ça l'a. Oui, ça l'a. Je pense qu'il y a certains amateurs de tennis qui ont apprécié ma performance et tout, mais j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour me faire un nom. Mais non, j'ai pas changé. Je suis content du support que j'ai, puis c'est tout ce que j'ai de besoin. Puis après, c'est un extra de pouvoir jouer devant la foule québécoise, devant jouer la foule canadienne, puis essayer de les rendre fiers, parce que je pense qu'on met beaucoup d'efforts. Non seulement moi, mais tout le monde au Canada qui sont impliqués dans le tennis, ils méritent justement d'avoir des joueurs d'élite.
Y avait-tu une dernière question pour Alexis? Sinon, moi, j'en ai une demande spéciale. Et là, ça vient d'un de tes plus grands fans, Max Galarno. Imagine qu'il est relié. Il nous a dit, il faut absolument qu'on demande pourquoi Billy pense que tu es mon oncle gâteau. Alors voilà, c'est la question. D'où ça vient, Billy? Qui est Billy, première des choses? Et deux, pourquoi es-tu mon oncle gâteau?
Donc, c'est Billy, c'est son chien. Puis mon oncle gâteau, c'est parce que je lui donne la nourriture de table quand je le vois. Je le vois pas souvent, donc j'essaie de gagner des points de cette façon-là. Là.
Ah ouais, donc visiblement, tu en donnes beaucoup si ça a marqué le frère.
Exact.
Mais merci beaucoup, Alexis. On te souhaite la meilleure des chances dans ce tournoi-là. C'est tellement toujours un plaisir quand tu t'assois avec nous, quand tu viens jaser avec nous. On le dit avec un sourire que tu es notre favori, mais on le pense pour vrai. Alors, merci puis bonne chance cette semaine.
Merci à vous. Merci.
Merci encore à Alexis Galarno, il est toujours tellement sympathique. C'est ce qui conclut l'épisode en direct des championnats Banque nationale de Granby. Et comme c'est la tradition, je te donne le lourd mandat, la tâche importante, Nicolas Richard, de terminer l'émission.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis Alexis, bon tennis Rebecca, bon tennis Patricia, bon tennis Richard, bon tennis tout le monde.